Aujourd'hui, dans ma chronique Happy Work, la chronique du bien-être au travail, je vais essayer de vous apporter quelques minutes de sérénité. Je vais vous lire un chapitre d'un petit livre mémo très court que j'ai rédigé il y a 2 ans, intitulé « 5 secrets de coach pour mieux vivre au travail ». J'y reprends 5 des astuces et méthodes que je répète régulièrement à mes clients lors de mes séances de coaching et, en ces temps quelque peu agités, j'ai pensé qu'il serait bon de vous aider à vous recentrer sur ce qui est essentiel à votre propre bien-être, c'est-à-dire vous. Ce secret est « soyez bienveillant envers vous-même ». Éric Perret, auteur du livre « Oser l'amour de soi », au travail aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de la sortie de son ouvrage, commença son intervention par la question « Qui aimez-vous le plus au monde ?» L'assistance répondit invariablement dans un triplé dans le désordre « Mes enfants, mon époux, mon épouse, mes parents, vous me voyez venir. Qu'attendait-il que nous répondions ? Moi, bien sûr. » Pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi cette pensée ne viendrait même pas effleurer la plupart d'entre nous ? Il faut dire que notre culture et notre éducation nous martèlent qu'il faut être altruiste et aimer son prochain. S'aimer soi est donc souvent apparenté à de l'égoïsme ou à du narcissisme. Par exemple, en tant que parent, il est difficile de concevoir que l'on puisse s'aimer avant ses enfants. Mais le chemin de l'amour est un peu plus complexe que cela, et pour ma part, j'en retire 2 points fondamentaux. Le premier, c'est qu'il est illimité, existe donc la jalousie. Deuxième point, en s'aimant soi, on aime davantage les autres, et les autres nous aiment davantage. Quadrature du cercle, il n'y a finalement que des avantages à être plus tolérant avec nous-mêmes. Le sujet fait l'unanimité. Le monde de l'entreprise devient de plus en plus complexe et exigeant, contrainte de temps, de quantité, d'efficacité. Comme si cela n'était pas suffisant, j'ai constaté à maintes reprises durant mes entretiens qu'en plus de ces contraintes externes, beaucoup s'ajoutent une pression qu'ils se mettent tout seuls, pour reprendre leurs mots. Les profils de type perfectionniste sont les rois de l'autopression. À trop vouloir que tout soit parfait, et c'est tout à leur honneur, il se rajoute de nombreuses contraintes et beaucoup de stress. Peut-être parce que je suis moi-même une perfectionniste qui se soigne, oui, c'est possible, il se trouve que j'ai eu beaucoup de clients, plutôt des femmes d'ailleurs, qui l'étaient aussi. En travaillant sur l'estime de soi, ce jugement que chacun porte sur sa propre valeur et sur notre capacité à nous accepter tels que nous sommes, il est possible d'utiliser les grandes qualités du perfectionniste sans le stress qui peut lui nuire et le conduire jusqu'au burn-out. À titre d'exemple, je peux reprendre le cas de cette jeune femme, elle aussi très professionnelle et compétente, à la limite du burn-out quand nous avons commencé les séances de coaching, et capable de se mettre dans un état de pression intense en estimant devoir accomplir des tâches ou en se fixant des délais qui pourtant ne lui étaient pas demandés, dans cette proportion en tout cas. En l'aidant à reprendre les basiques de l'organisation du travail, comme la gestion du temps et des priorités, grâce à des outils ayant fait leurs preuves en la matière, et en l'amenant à valoriser son travail et reprendre confiance en elle, les résultats ne se sont pas fait attendre. Les changements opérés ont été aussi spectaculaires que positifs. Le sourire et la motivation retrouvés, elle a rapidement connu une belle progression professionnelle. Développer votre savoir-être, c'est être bienveillant envers vous. C'est un signe de maturité, une façon de préserver son intégrité physique et mentale. Je vais vous citer une phrase d'Oscar Wilde qui dit « S'aimer soi-même, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour. » Accepter sa condition d'être humain avec ses forces et ses faiblesses, c'est également faire preuve de plus d'humanité avec les autres. En valorisant vos réussites, vous aurez davantage de facilité à valoriser les personnes qui vous entourent. En appliquant ce principe, vous allez développer comme savoir-être le discernement et la prise de recul. J'espère que ces quelques mots éclaireront votre journée différemment, qu'ils vous permettront de prendre un peu de distance avec la pression de la vie quotidienne et qu'ils mettront en lumière la formidable personne que vous êtes, à n'en pas douter. Si ce secret vous a interpellé, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous dis à la semaine prochaine sur Esprit Occitanie.
We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ces nouvelles chroniques de Maître Marie. Alors, vous l'aurez entendu sur la bande-son, on reste avec Ali McBeal, mon avocate déjantée préférée, mais on renouvelle un peu le générique et le petit jingle de ces chroniques de Maître Marie. Alors, pandémie oblige, tout a été perturbé, décalé cette année. Tout, même le sacro-saint tournoi de Roland-Garros qui se déroule du 27 septembre au 11 octobre 2020, soit en ce moment. Roland-Garros, ou un Toulousain, a fait des étincelles cette année. Je parle bien évidemment d'Hugo Gaston. Mais pourquoi nous parle-t-elle tennis, me direz-vous, alors que c'est une chronique juridique? Eh bien parce que du cours à la cour, il n'y a que le pas d'une lettre que je franchis allègrement. Et je vous propose donc à nouveau cette année quelques brèves de cours. Et pour celle-ci, eh bien voici quelques jurisprudences récentes de la Cour de cassation en droit des personnes et de la famille. Alors, pas en fait d'arrêt majeur, hein, mais vous verrez que c'est plutôt des arrêts avec des petites questions de détail ou des petites questions cocasses, et que malgré ça, eh bien quand même, parfois, parce que, comme je l'entends souvent, on en fait une question de principe, eh bien on peut voir les dossiers monter jusqu'en Cour de cassation. Alors, premier arrêt, c'est un arrêt de la première chambre civile du 13 mai 2020. Alors, dans ce dossier-là, marié sous le régime de séparation de biens, un couple divorce et vend l'appartement qui leur appartient à chacun pour moitié. À compter de l'ordonnance de non-conciliation, l'ex-époux a payé seul le crédit afférent à l'appartement. Il demande donc à son ex-épouse de lui reverser 50% du crédit remboursé. Jusque-là, tout le monde suit. Mais madame refuse. Selon elle, au cours de la procédure de divorce, monsieur a rempli une déclaration sur l'honneur où il a répondu non à une question relative à une éventuelle récompense due par la communauté ou le conjoint. Elle interprète ça comme un aveu de son ex-mari qu'elle n'a donc aucune somme à lui rembourser. Monsieur dit que pas du tout, ce n'est pas un aveu mais une simple erreur. Il a coché une case renseignant une question relative à un régime matrimonial communautaire qui ne les concerne pas puisqu'ils étaient mariés en séparation de biens. Eh bien, la Cour de cassation a suivi le raisonnement monsieur et considéré que c'est effectivement une simple erreur. Dès lors, l'ex-épouse doit bien rembourser à son ex-mari la moitié du crédit que ce dernier a payé seul. Deuxième arrêt, on est toujours sur le 13 mai 2020. La Cour de cassation, elle a un peu l'habitude comme ça de rendre les arrêts par salve. Et ce jour-là, elle a été relativement productive. Donc, deuxième arrêt, on est toujours au 13 mai 2020. Et dans ce dossier-là encore, un couple divorce. Et pendant la procédure, l'épouse réclame des indemnités à son mari, estimant qu'il n'a pas contribué aux charges du mariage comme il le devait. Et vous savez que normalement, c'est un devoir dans le cadre du mariage de contribuer à proportion de ses ressources. Mais monsieur dit qu'elle ne peut pas lui réclamer quoi que ce soit dans la mesure où ils ont signé un contrat de mariage interdisant à l'un ou l'autre des époux d'engager une action contre l'autre à propos notamment des dépenses relatives à la contribution aux charges du mariage. Or, ce serait exactement ce que ferait ici madame, et la clause devant s'appliquer, eh bien, la demande de son épouse serait irrecevable. Madame conteste, bien sûr. Elle expose que la clause est inapplicable car la règle relative à la contribution aux charges du mariage est d'ordre public. Et donc, par conséquent, on ne pouvait pas y déroger contractuellement. Et si on l'a fait, eh bien, une telle clause doit être déclarée nulle. Et bien, sans surprise, dans ce dossier-là, la Cour de cassation a suivi madame puisqu'effectivement, lorsque une règle est d'ordre public, eh bien, il est retenu qu'on ne peut pas y déroger par convention, et donc la Cour de cassation a bien évidemment appliqué ce principe et retenu que l'épouse était en droit d'agir contre son époux pour obtenir des indemnités relatives à la contribution aux charges du mariage. Vous voyez, si vous projetez de vous marier et de mettre des petites clauses pochette surprise dans le contrat de mariage, eh bien, c'est pas forcément une bonne idée, parce que si votre divorce monte jusqu'à la Cour de cassation, eh bien, vous serez sanctionné par la Cour. On quitte le domaine du divorce, et on passe au domaine des tutelles, qui lui aussi fait partie des droits des personnes et de la famille, avec cette fois-ci un arrêt du 18 décembre 2019, donc un peu moins récent. Et alors, c'est assez amusant parce qu'en fait, on a un mari qui conteste le placement sous tutelle de sa femme. Et en fait, il estime que le juge des tutelles aurait dû le désigner comme tuteur, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il a désigné à sa place un mandataire judiciaire. Et le mari estime que non, on ne pouvait absolument pas désigner un mandataire judiciaire comme tuteur parce que, eh bien, il y avait un membre de la famille qui pouvait tout à fait assumer cette fonction, c'est-à-dire lui en tant qu'époux. Mais le juge des tutelles maintient sa position, estimant que le mari n'était pas en mesure d'assumer la tutelle de son épouse. Et pour preuve, il souligne que le mari est en conflit avec les enfants de sa femme, qu'il a déjà commis plusieurs erreurs d'appréciation par le passé, qu'il a notamment résilié la mutuelle de son épouse durant son hospitalisation, ce qui a généré une dette de près de 12 000 euros, qu'il a ensuite refusé de payer et a engagé plusieurs procédures judiciaires à l'encontre des intérêts de sa femme. Dans une telle situation, la Cour de cassation a validé la position du juge des tutelles, estimant que la tutelle ne pouvait être raisonnablement confiée au mari, puisque le tuteur ne doit pas agir contre les intérêts du majeur protégé. On revient en 2020 avec un quatrième arrêt du 12 février 2020, où là, à nouveau, un couple divorce et un litige survient au sujet du nom de famille. Alors, ça peut prêter à sourire, mais vous savez que la question du nom, régulièrement, c'est une question assez sensible dans le cadre des divorces. Madame souhaite conserver le nom de famille de son ex-époux et ce dernier n'est pas d'accord. L'ex-épouse décide alors de lui contraindre et sollicite l'autorisation du juge. L'ex-mari conteste. Pour lui, son ex-femme ne justifie d'aucun intérêt à conserver son nom de famille car elle n'exerce pas de profession et n'a pas acquis de notoriété particulière avec le nom de son mari. Mais madame persiste. Elle rappelle qu'elle a pris le nom de son ex-mari et l'a utilisé durant leurs 34 années de mariage et que les documents administratifs la mentionnent sous son nom marital. En conséquence, selon elle, elle doit pouvoir conserver le nom de son ex-mari. Et bien, pas suffisant pour le juge et la Cour de cassation reste fidèle à sa jurisprudence en la matière. Les arguments avancés ici par l'ex-épouse ne sont pas suffisants pour justifier d'un intérêt à conserver le nom de son ex-mari. Et elle doit dès lors reprendre son nom de jeune fille. Alors, juste pour mémoire, on rappellera que les motifs légitimes ou suffisants pour conserver le nom, très souvent, c'est d'être connu et reconnu dans son milieu professionnel avec le nom de son époux, ou bien effectivement, lorsque les enfants sont très jeunes, que leur mère veuille garder le même nom que ses enfants. Et là, en l'occurrence, on ne rentrait pas dans les cases parce que le fait que tous les papiers administratifs soient établis au nom marital, ce n'est pas suffisant, on refera faire les papiers, et puis c'est tout. Et puis enfin, dernier arrêt pour ces brèves, relativement récent, puisque là aussi on est au 12 février 2020, vous voyez, encore une journée prolifique pour la Cour de cassation. C'est une histoire d'étudiant cette fois-ci, puisqu'à la suite du refus de ses parents de l'aider à payer ses études d'hôtellerie et les frais annexes, logement, nourriture, etc., une jeune étudiante rencontre des difficultés financières malgré un job d'étudiant dans un restaurant. Ses parents lui proposent alors de regagner le domicile familial. La jeune étudiante refuse et elle réclame le versement d'une pension alimentaire. Elle ne souhaite pas retourner vivre chez ses parents au vu de leur relation particulièrement tendue, d'autant qu'elle veut pouvoir continuer ses études. Les parents tiennent bon, estimant que dès lors qu'ils ont proposé de loger leur fille, ils ne sont plus tenus de lui verser de pension alimentaire. Eh bien, le juge va se ranger du côté de la jeune étudiante et rappelle que cette possibilité, c'est-à-dire de se dispenser du versement d'une pension à partir du moment où on a proposé à l'enfant de regagner le logement familial, eh bien cette possibilité n'est offerte qu'aux personnes qui ne sont pas en mesure de verser une pension alimentaire, ce qui n'est pas le cas dans ce dossier, puisque les parents ont des revenus importants. Et donc ici, les parents doivent verser une pension alimentaire à leur fille. Voilà, chers auditeurs, un petit panel de décisions récentes de la Cour de cassation. Vous voyez que, comme je vous le disais en ouverture de chronique, on n'est pas toujours sur des décisions fondamentales, hyper importantes, des revirements de jurisprudence et les grands principes du droit, mais que parfois, eh bien, sur des simples petits points de détail ou des dossiers un peu cocasses, eh bien, on peut se retrouver quand même à avoir des arrêts de cassation rendus. Alors, si vous aimez suivre l'actualité jurisprudentielle avec un ton un peu décalé et très simple, eh bien, vous pouvez notamment aller consulter le site de Weblex sur lequel j'ai pu piocher ces quelques jurisprudences simplement résumées, qui est très bien fait et qui vous permet comme ça d'avoir quelques bribes d'informations juridiques et jurisprudentielles très intéressantes. N'hésitez pas à commenter cette chronique sur la page Facebook d'Esprit Occitanie, j'aurai plaisir à lire vos commentaires, peut-être y répondre. Si vous souhaitez nous réécouter, eh bien, retrouvez cette chronique ce soir à 23h, et aussi mercredi matin à 10h, et bien sûr dans notre bibliothèque de podcasts sur www.espritoccitanie.fr, et j'aurai grand plaisir à vous retrouver à nouveau la semaine prochaine. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? Nope.
chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Je vous fais découvrir un nouveau chapitre du roman « Superman ne volera plus » de Gilbert Noguès aux éditions Kern. Ce chapitre débute par un couplet de la chanson de Carlos « Il y a des Indiens partout ». En passant devant le petit baraquement au pied du golfe, le Tché a stoppé le camion. La nuit était noire et le vent d'OTAN souffle si fort que les fils du téléphone tournent comme une corde à sauter dans la cour d'une école de filles, ou de garçons si vous préférez. La buée que nous provoquons sur le pare-brise a du mal à se dissiper et le Tché passe régulièrement un vieux chiffon pour améliorer la visibilité. Gégé est descendu du fourgon. Nous l'avons suivi du regard. Discrètement et avec doigté, il a ouvert l'une des portes, est entré dans l'atelier où les jardiniers remisent tout le matériel et les produits nécessaires à l'entretien du parcours de golf. Dans le fourgon, Consuelo réajuste sa coiffe. On va y venir plus tard. Assise sur le siège avant droit, elle tient Spartacus sur ses genoux. Nous n'avons pas songé le moins du monde de le priver du pow-wow. Soyez patient. Je suis à l'arrière, enfoncé dans un vieux Voltaire défoncé que le Tché a déniché dans sa brocante et celui de Gégé attend impatiemment son retour. Afin d'assurer leur stabilité et nous éviter toute chute malencontreuse, notre camarade brocanteur les a harnachés avec des sangles. Le confort est de rigueur. « J'ai trouvé ce qu'il nous faut !» me fait remarquer Gégé en pénétrant dans le fourgon et en braquant sa lampe torche sur un bidon de désherbant estampillé de la marque Monsanto. Le Tché ne se fait pas prier pour démarrer aussitôt. Nous avons prévu de ne pas traîner autour du golf et d'y revenir seulement quand la mixture explosive sera prête. Gégé a tout préparé dans une grande dame Jeanne, fournie généreusement par la brocante du Tché. Tu vas voir, Gus, avec ce que j'y ai mis, ton chaudron, il va apprécier le cocktail à sa juste mesure. Pas suffisamment pour satelliser la toiture ou l'envoyer aussi haut que l'astronaute Carrero Blanco, mais largement de quoi creuser un 19e trou à ce foutu golf. Nous avons laissé le camion un peu plus bas, dans un endroit discret, loin des habitations, au niveau de la Garonne. J'avais en souvenir l'aventure d'un de ses copains qui, du temps du scalp, s'était fait repérer par les flics à cause de la présence de son fourgon sur les lieux d'une explosion. Le Tché avait anticipé en changeant les plaques d'immatriculation de son véhicule. Nous étions parés, mais un peu de discrétion n'était pas de trop. Gégé et le Tché sont entrés dans le baraquement et sont ressortis avec deux golfettes, dont l'une en forme de petit camion, sur laquelle nous avons déposé la dame Jeanne. Je suis montée à côté de Gégé. L'avantage de ces véhicules, c'est le silence avec lequel ils progressent. Pas question de se pointer devant chez Chaudron avec un camion pétaradant. 400 mètres plus loin, nous garons dans la contre-allée de buis nos véhicules face à la bâtisse du DRH. Prêt à l'attaque. Le Tché, d'un geste rotatif, nous fait comprendre qu'il va faire le tour de la maison pour voir ce qui se passe côté piscine. Je rappelle que le trempe-cul se trouve à l'arrière de la villa. Et il me propose de le suivre. Chaudron ne dort pas. La lueur bleutée du téléviseur illumine la pièce. Sur une petite table basse, une bouteille d'eau de feu trône, attendant le prochain service. L'homme, apparemment seul, est affalé dans un grand canapé, un verre dans une main, l'autre agité de mouvements d'aller-retour. Le Tché oriente mon regard vers le téléviseur aussi vaste qu'un écran de cinéma. Je me concentre sur les images et j'en conclus très vite que ce n'est pas Blanche-Neige et les sept nains que regarde Chaudron, mais plutôt une version moderne où la Blanche-Neige en question ne se contente pas seulement de cette main, mais fait appel aux surdimensionnés attributs de plusieurs individus qui n'ont rien de comparable avec les zigounettes de Simplet, de Grincheux ou de Prof. Nous laissons pour l'instant le cinéphile et nous retrouvons Gégé, Consuelo et Spartacus qui patientent devant l'entrée. Dans le mode d'expression cher au mime Marceau, nous avertissons nos camarades de la situation. Le Tché résume ce qu'il a retenu du film, résumé que je confirme d'un hochement de la tête. Seul Spartacus ne semble pas tout comprendre. Et Consuelo appuie sur le bouton de la sonnette. Nous percevons en partie l'agitation qui doit secouer la maison et ce cher Chaudron. « Qui c'est ?» aboie-t-il derrière la porte. Consuelo, le doigt sur la bouche, nous invite au silence. « Police ! Ouvrez !» hurle la chanteuse de sa plus belle voix. Un bruit de serrure, de cliquetis et autres grognements se font entendre et le visage atterré d'un homme en peignoir se dessine dans l'encadrement. « Putain, c'est quoi cette guignolade ?» s'exclame le paroissien, dérangé dans son recueillement spirituel. Il a de quoi être surpris. Consuelo se tient face à lui, enveloppé de façon négligée, dans une étole aux motifs colorés et nouée autour de sa taille. Une robe de peau frangée la couvre jusqu'aux genoux et plus bas une paire de mocassins, sanglants. Des bimbeloteries et verroteries pendouillent sur son buste. Sur sa tête, une coiffe emplumée complète la panoplie. « Hugues !» lance-t-elle, pour confirmer par le langage que Chaudron a bien saisi qu'il était face à une descendante de Pocahontas. Aussi dévergondée que l'héroïne de cinéma, mais bien plus enveloppée. Le Tché, bandeau rouge, deux plumes de pie et une plume de buse sur la tête et peinture de guerre sur le visage, repousse l'ébahi de son tomahawk et le force à reculer vers l'intérieur du couloir. Gégé, bandeau serré autour d'une perruque noire, tel Geronimo, fils de celle qui est traversée par la lumière, pénètre à son tour dans la maison, la dame Jeanne sous un bras et un arc en bandoulière. Chaudron, qui par sa taille nous domine tous, sauf Gégé, d'au moins 15 bons centimètres, se fait tout petit, se recroqueville, se délite, se confond en « pitié », en « laissez-moi tranquille », en « j'ai rien fait », tentant d'apitoyer la grande Sachem et ses deux Indiens. Et enfin, j'apparais. J'apparais fièrement dans le costume du héros kryptonien. J'apparais en super-héros de l'imaginaire américain. J'apparais telle l'icône culturelle états-unienne. Mais... Chaudron me dévisage, m'inspecte, m'inventorie, m'épluche. Ses yeux se promènent à la vitesse d'un warning, agité par la tremblante du mouton. Poussé par la poigne ferme et décidée de Pocahontas Consuelo, il se réfugiait contre un placard. Mais... Il manque de vocabulaire. Mais vous êtes mort. C'est un peu... J'ai presque envie de me pincer, tant les propos du bonhomme me laissent pantois. Mais c'est aussi de sa part un aveu de sa présence lors de l'envol de Jojo. Jojo s'est envolé, pour une raison ou l'autre, et ce type en connaît la raison. « Alors, Chaudron, » profère l'emplumé, « tu nous racontes ou on passe de suite au feu de camp ? Et ta gonzesse, elle est là ?
Elle est chez sa mère. »
Et d'une poussée puissante sur la poitrine, elle envoie valdinguer l'olibrius sur le canapé où, quelques minutes auparavant, il s'extasiait sur les ébats de Blanche-Neige. Les pans de sa robe de chambre s'écartent, révélant la partie de son anatomie qui a perdu de sa vigueur suite à notre arrivée impromptue. Blanche-Neige se moque bien que Chaudron se racornisse et ait mis en veille le son du téléviseur tant elle éprouve des difficultés à exprimer le moindre mot dans la situation accueillante où se trouvent ses lèvres. Le Tché, cochise, met fin aux aspirations de la gagneuse en fracassant l'écran avec son tomahawk avant qu'elle ne passe au plat de résistance.
Arrêtez, vous êtes fou! Vous savez ce que ça coûte un écran comme ça? Vous allez le payer!
Lâche Consuelo, que les contingences télévisuelles de notre hôte laissent de marbre.
Mais dans quel pays vivez-vous?
S'égosille l'énervé des lieux.
Non, mais,
s'exclame le Tché, les pays n'existent pas et je suis citoyen du monde.
Peut-être que monsieur souhaiterait un petit coup de main pour nous expliquer? Propose Gégé.
Chaudron, toujours alangui contre son gré dans le canapé, n'emmène pas large quand Gégé Géronimo lui propose de découvrir les bienfaits sur la peau de ses deux larges paluches. Je tape sur l'épaule de Consuelo et lui montre l'affiche punaisée entre les deux portes vitrées qui donne sur l'extérieur face à la piscine.
Putain, j'y crois pas!
Voilà, chers auditeurs. Vous pourrez retrouver, comme d'habitude, cette émission ce soir à 23h et demain matin à 10h. Je vous rappelle que vous pouvez également réécouter toutes les émissions d'Esprit Occitanie en téléchargeant les podcasts sur www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour smartphone. À la semaine prochaine !